France Culture.
Réplique, la France est-elle réformable, avec Philippe Aguillon et Nicolas Dufourcq. Après de longues négociations et grâce au recours à l'article 49.3, la France a enfin un budget. Ce vote n'aurait pas été obtenu sans la suspension de la réforme des retraites, qui était pourtant l'un des marqueurs du second quinquennat d'Emmanuel Macron. À mes deux invités, Philippe Aguillon, qui est professeur au Collège de France et prix Nobel d'économie, et Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement, qui publie La dette sociale de la France 1974-2024. Je voudrais demander pour commencer comment ils interprètent cette suspension. Est-ce un choix raisonnable ou un recul inquiétant ? Nicolas Dufourcq.
C'est évidemment un énorme recul qui, à l'échelle de l'histoire de notre protection sociale, est un peu sacrilège en réalité. Hein. Mais qui s'interprète comme le 52e épisode d'une série qui a commencé en 1974. Il y en aura un 53e, il y en aura un 54e, et on sait que le 60e épisode sera la retraite à 65 ans, et on sait que le 70e épisode sera la retraite à 70 ans. Donc c'est un épiphénomène chaotique lié à une conjoncture politique très particulière sur laquelle il m'appartient pas de porter un jugement. En tout cas, c'est la démonstration presque mathématique de l'efficacité de l'équation de progression fatale par la dette de l'État-providence qui est devant nous depuis maintenant 50 ans.
Mais d'abord, dites-vous que ça a commencé en 1974, Nicolas Dufourcq.
Alors, j'ai souhaité effectivement, il faut toujours chercher quel peut être le point de départ d'une histoire qu'on va raconter. Et pour moi, le point de départ, c'est la dévaluation que Georges Pompidou décide de faire en 1969, à son arrivée au pouvoir, donc oui, en 69, contre l'avis de Raymond Barre, qui à l'époque était le commissaire européen et qui avait recommandé au général de Gaulle de ne pas le faire. Cette dévaluation déclenche l'inflation. L'inflation déclenche toutes sortes d'enchaînements fatals, dont le chômage de masse qui démarre après 74. Et donc, le pouvoir politique, Giscard d'Estaing, qui a lui-même dû gagner à gauche avec un programme qui répondait directement au programme de l'Union de la gauche, hein, est un pouvoir qui va multiplier les nouvelles prestations sociales d'un État-providence d'une dimension totalement différente de celle qui avait été conçue par les fondateurs de 1945. C'est un État, il n'est plus providence, il est providentiel. C'est-à-dire que on va attaquer le handicap, on va attaquer la monoparentalité, on va attaquer la pauvreté, on va attaquer la pauvreté des vieux. Toutes ces nouvelles allocations n'existaient pas auparavant, sont votées dans les années 74, 75, 76. En 1977, on vote la retraite à 60 ans des femmes. On pourrait dire que 81 est une continuité avec la vision giscardienne de l'État-providence. Et tout s'enchaîne ensuite, c'est-à-dire droite comme gauche, qui sont des classes politiques engendrées par l'État-providence, produisent de la providence supplémentaire, semestre après semestre, sans trop s'apercevoir au début qu'elle est financée par la dette, jusqu'à ce que le secret de famille finisse par être révélé, c'est que 10% de nos prestations sociales d'aujourd'hui sont financées par nos arrière-petits-enfants. Voilà. Et ça, on l'a pas dit aux Français. Et la raison pour laquelle je suis convaincu qu'on finira par arriver à faire la réforme nécessaire des retraites, c'est que je pense que si on le dit aux Français, ils vont comprendre.
Ah bon? Écoutez, nous verrons, parce que les hommes politiques ont essayé de le dire, mais Philippe Aguillon... Ah,
non, ils n'ont juste pas essayé.
Vous dites, Philippe Aguillon, au contraire, qu'il fallait faire baisser la pression.
Le diagnostic de fond, je suis totalement d'accord avec Nicolas, de toute façon, on est d'accord sur beaucoup, l'essentiel, je tiens à le dire dès le départ. Je pense que, tactiquement, on n'a pas annulé la réforme des retraites, on a suspendu l'horloge. Il y avait une horloge prévue, et ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a suspendu. Moi, au moment où la réforme a été négociée en 23, je voyais bien que du côté des syndicats ou d'autres, ça bloquait aux 64 ans. Et j'avais proposé 63 ans et revoyure en 2027. Et à l'époque, Laurent Berger était d'accord. Et le regretté Olivier Marleix et Xavier Bertrand étaient sur la même ligne. C'est-à-dire qu'ils voyaient bien qu'il y avait un problème sur l'âge, parce que pour des raisons psychologiques, on pourra discuter après pourquoi il y a un blocage sur l'âge. Et l'idée, c'était de dire faisons 63 et on reprend le chantier de la réforme à points en 2027. Ça peut être la réforme à points, ça peut être une autre réforme, parce qu'on est d'accord sur le fond, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler davantage. On a un taux d'emploi des juniors insuffisant en France, on a un taux d'emploi des seniors
aussi,
insuffisant, absolument, oui. Et il va falloir travailler plus longtemps. Donc, on est d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'en France, on a un PIB par tête qui est trop bas, pour deux raisons. Un, le taux d'emploi est trop faible par rapport à nos voisins européens, notamment. Et deux, notre productivité est trop faible. Donc, il va falloir s'attaquer à ces deux piliers du PIB par tête, le taux d'emploi et la productivité. Donc, sur le fond, on est d'accord. En France, il y a eu un blocage psychologique sur l'âge. Peut-être parce que au travail, dans certains endroits, les gens, il y a quelque chose qui fait que les gens bloquent sur l'âge. Je pense qu'un moyen possible, c'est le système à points. Alors, c'est
on n'y va pas. Ça veut dire quoi, le système à points ?
Par exemple, tu dis, tu as travaillé tant d'années, tu as des annuités, et puis tu les évalues. Si par exemple tu gagnes le salaire moyen chaque année compte un point. Si tu gagnes la moitié du salaire moyen, c'est la moitié. Voilà, il y a des points à louer. Ça, c'est une des façons de faire. Le rapport Blanchard-Tirol, qui a été un rapport très, je recommande la lecture, a tout un chapitre sur comment on peut remettre en chantier la réforme à points. Ça donne une certaine flexibilité. Les gens peuvent partir plus tôt, plus tard. C'est un des moyens de traiter qui contourne ce blocage psychologique sur l'âge. Donc sur le fond, je suis entièrement d'accord avec Nicolas, il va falloir travailler davantage. Donc il y a le levier de la retraite, le levier du taux d'emploi des jeunes, le levier du taux d'emploi des seniors. Mais il va falloir contourner l'obstacle. Et c'est pour ça que j'étais pour un 63 ans et revoyure. Et si ça n'était pas fait, il n'y aurait pas eu de budget. Et le coût de pas de budget et le coût d'une instabilité politique aurait été, à mon avis, supérieur à ce que nous perdons en arrêtant l'horloge entre maintenant et 27. Parce que là, ce que ça veut dire maintenant, c'est que de toute façon, l'horloge, elle reprend. On n'a pas dit qu'on suspend la réforme. Toute chose égale par ailleurs, l'horloge se remet à fonctionner à partir de fin 27, début 2028. Donc c'était ça pour moi. C'était en termes de coût d'opportunité. C'est-à-dire, quel était le coût de ne pas le faire. Vous voyez, il y a le coût de le faire, mais il y a le coût de ne pas le faire. En économie, on raisonne beaucoup en termes de coût d'opportunité. C'est-à-dire, quel est le coût de l'alternative. Et c'est ça qui me conduisait, moi, à soutenir la démarche du Premier ministre, que moi, je veux vraiment louer, parce qu'en ce moment, il est sujet à beaucoup, on tape beaucoup sur lui, et de manière, je pense, souvent injuste. Je trouve que c'est formidable qu'on ait un budget. Je peux vous dire qu'à Davos, nos partenaires européens étaient là, suspendus à l'idée, est-ce que la France aura un budget. Je peux vous dire l'importance qu'il y ait, vis-à-vis de nos partenaires, que nous ayons un budget. Mais alors, sur le reste, je suis entièrement d'accord avec Nicolas.
Alors, fallait-il contourner l'obstacle ? Et comment expliquez-vous également, Nicolas Dufourcq, ce blocage français, parce que c'est français. Vous avez parlé de la retraite à 65 ans, 67 ans inévitable. La social-démocratie danoise a voté la retraite à 67 ans et la perspective de 70 ans aussi. Et c'est la social-démocratie. Alors, un, fallait-il contourner l'obstacle ? Deux, comment expliquez-vous le blocage français ? Nicolas Dufourcq.
Je pense qu'il faut prendre un recul un peu philosophique sur notre système politique. En réalité, ça fait longtemps qu'on est sorti de l'éthique de la vérité avec les Français. Typiquement, quand on ne leur dit pas que les prestations sociales sont financées par la dette. C'est ce que j'appelle le secret de famille. Un secret de famille, c'est, on vous le dit, vous dites, mais attendez, je ne savais pas. Et la personne vous répond, mais comment tu savais ? Mais non, tu ne me l'as jamais dit. Voilà. Donc on n'a jamais dit aux Français que les prestations sociales étaient financées par la dette et que les trois derniers jours de chaque mois de pension de retraite étaient financés par la dette. Donc il faut d'abord revenir à la vérité. Ensuite, il y a la question de l'âge. Pour moi, elle participe de la question de la vérité. Je pense qu'il faut repousser l'horizon imaginaire et anthropologique de la fin de l'activité professionnelle. Et ça passe par l'âge. Il faut passer par le mental. Les gens ne peuvent pas penser être les passagers clandestins du système, avec des artifices qui sont simplement la durée de cotisation ou d'autres. Le régime par points, il est très intéressant. Bien entendu, il est souhaitable. Mais pourquoi est-ce qu'il est souhaitable ? Précisément parce qu'il introduit un voile d'ignorance complet sur les paramètres. On peut le faire varier sans que les Français n'y comprennent rien. D'ailleurs, à Finkielkraut, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, je suis très français moyen là-dessus.
100% des Français posent votre question. Et c'est pour ça qu'Agirc-Arrco fonctionne. C'est que comme personne n'y comprend rien, on fait confiance aux partenaires qui bougent les curseurs et qui font tous les ans une réforme des retraites. Tous les ans, vous avez une réforme des retraites de la GIRC-ARRCO. Qui plus est, vous avez une règle d'équilibre, une règle d'or dans le fonctionnement du régime qui fait que s'ils ne se mettent pas d'accord, il y a des indexations des retraites. Et donc, ils ont introduit dans le régime à GIRC-ARRCO une règle de finitude, absolument, qui est exactement ce qui manque à l'État-providence français. Donc, le sujet, c'est faire comprendre aux Français que pour que leur État-providence, le nôtre, notre mode de vie, notre miracle collectif, pour qu'il soit pérenne, il faut accepter des règles de finitude. C'est-à-dire l'équilibre des finances sociales et un âge qui correspond au nouvel âge biologique de notre temps.
Mais on peut le faire par les points. Donc on est d'accord.
Oui, il faut faire l'âge. Et ensuite, tant mieux si on arrive à faire les points. Le problème des points, c'est que le passage à la retraite par points universel, il est très coûteux. Or, il nous faut déjà trouver 120 milliards par an. Et le coût de la retraite des 2,7 millions de Français retraités de moins de 65 ans, il est de 50 milliards par an. Voilà. Donc la réforme de François Mitterrand en 1982 coûte 50 milliards d'euros par an aujourd'hui, hein. C'est-à-dire 2/3 de l'impôt sur le revenu.
Oui,
et c'est ça qui pose problème. Et c'est là qu'est notre marge de manœuvre nationale pour refinancer les services publics, oui, et pour stabiliser notre dette.
J'entendais l'autre jour à la télévision Christelle Morançais, qui préside le parti Horizon des Pays de la Loire. Elle rappelait que il y a encore quelques années, 4 actifs finançaient un retraité, et maintenant c'est 1,3 ou 1,5 actifs. Et elle disait d'ailleurs, alors qu'elle préside le parti Horizon, que jamais elle n'aurait voté le budget, quant à elle, parce qu'il y avait 2 lignes rouges, la réforme des retraites et la question de l'augmentation des impôts. Mais d'un autre côté, je m'interroge quand même sur ce blocage, parce que on a le sentiment aujourd'hui, vous l'illustrez dans votre livre, Nicolas Dufourcq, que le rapport des Français au travail a changé, notamment depuis les 35 heures payées 39. On a ancré l'idée, je vous cite, que la rémunération était désormais déconnectée de l'intensité au travail. On a ancré dans l'esprit des Français l'idée que la vraie vie commence quand on sort du lieu de travail et même le jour du départ à la retraite. Et Nicolas Dufourcq, vous interviewez un ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, de 2022 à 2024. On l'aborde dans la rue, justement parce qu'il a voulu instaurer la retraite à 64 ans, en lui disant, en passant à 64 ans, vous m'avez volé mes 2 plus belles années de vie. Et il commente, les belles années sont celles où l'on arrête de travailler. Les années d'avant, alors c'était quoi? Le moment du départ est vécu comme un moment de libération. On a complètement dramatisé la vie professionnelle, comme si les efforts de prévention, notamment dans l'industrie, n'avaient pas amélioré la vie quotidienne au travail, comme s'ils n'avaient pas engendré une augmentation de l'espérance de vie, comme si nous étions au fond un peuple tellement différent des autres. Et il ajoute que, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu vraiment de débat sur la réforme des retraites, mais des invectives et des insultes. Il avait des acouphènes aux oreilles, étant donné la vindicte des députés de LFI. Alors, c'est quoi ce blocage et pourquoi cette spécificité française? Philippe Adieu.
Alors, écoutez, je m'aventure là, vraiment, hein, donc je prends avec beaucoup de pincettes et de modestie. Je crois qu'il y a différents problèmes. Je crois qu'il y a effectivement les secrets de famille que mentionnait Nicolas. Peut-être qu'il faut marteler chaque jour davantage l'importance d'équilibrer nos comptes sociaux pour la soutenabilité de notre modèle social. Mais je crois qu'il y a également en France, dans certaines entreprises, pas l'entreprise que dirige Nicolas, évidemment, et pas à mon lab non plus, j'espère, une certaine culture du management. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, il y avait eu un livre très intéressant de Thomas Philippon sur les entreprises françaises et le bonheur au travail. Alors des fois, on peut se sentir moins heureux qu'on devrait l'être, mais il y a encore, dans certaines entreprises, une culture où on ne dit jamais à votre subordonné qu'il fait bien, on lui dit uniquement quand il fait pas bien, et disons d'obséquiosité à l'égard du supérieur, et disons de certaines façons de traiter les subordonnés, voilà, et qui peut-être vient du système scolaire, peut-être d'autres choses, qui fait que dans les entreprises, je vais vous donner un exemple. J'ai connu un Suédois qui dirigeait un chantier naval en France, et il devait faire une restructuration. Il réunit tous ses employés, il leur parle, et il leur dit « voilà ce que je vais faire ». Les employés lui disent « vous savez que c'est la première fois qu'on nous consulte. Vous le savez très bien, dans les entreprises françaises, il y a beaucoup moins de présence des employés dans les conseils d'administration qu'en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Les pays scandinaves et le pays rhénan, c'est des pays où on discute, où il y a un respect. Alors, il texte tout ou tango, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi coopération du côté syndical ou du côté des employés. Mais le fait est que dans beaucoup de nos entreprises, et pas celles que dirige Nicolas, évidemment, il y a une mauvaise culture de la relation hiérarchique. Et je pense que beaucoup de gens sont pas heureux au travail parce qu'on leur dit jamais quand ils font bien, on leur dit seulement quand ils font pas bien et ils sont pas heureux. Je pense que le lieu de travail doit être un endroit où on doit s'épanouir, sentir qu'on a des possibilités de promotion. La promotion interne joue un rôle important et je pense que ce problème un jour également devra être abordé. Voilà, il n'a pas été à mon avis suffisamment.
Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Nicolas Dufourcq ?
J'ai quand même du mal à être d'accord. Ah. J'entends ce que dit Philippe, mais je l'adresse moins à l'entreprise, que je connais bien, ça fait 30 ans que je dirige des entreprises, où honnêtement les progrès par rapport à ce qu'était la culture verticale descendante des années 70 sont considérables. Hein. Et, en revanche, j'entends ce qui peut se passer dans le monde de la fonction publique. Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, où on est resté sur des cadres et des codes, des protocoles de management qui sont assez proches de ce que tu décris et qui font que vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui ont des tâches routinières et qui finissent tout simplement par les épuiser d'ennui, quoi. C'est-à-dire la charge psychique, elle est liée à l'absurdité de la construction qu'on leur impose et d'une certaine manière d'une partie de leur vie quotidienne. Donc ça, je peux le reconnaître. Mais au fond, je pense qu'il faut dézoomer et aller beaucoup plus profond. Je pense que l'appétence pour la vie considérée comme bonne quand elle est strictement personnelle, hein, c'est-à-dire l'autre vie, celle dans laquelle je suis rentré chez moi et je me suis de facto désocialisé, fait partie de la machine démocratique que décrivait Tocqueville. Elle va jusque-là.
L'individualisme démocratique.
L'individualisme démocratique. La gestation progressive d'une société des semblables qui rentre chez elle et qui délègue de plus en plus de responsabilités au souverain, hein, qui peut devenir d'ailleurs le despote tutélaire, c'est comme ça qu'il l'appelait, va jusque-là. Et donc le souverain doit lui rendre des services publics, oui, du soin, doit lui rendre désormais du loisir, entre 60 et 70 ans, quand commencent les problèmes physiques et le début de la validité. Et dans la vie professionnelle, il doit lui rendre également du loisir. Et de plus en plus de loisirs. Ça fait partie du contrat démocratique. C'est-à-dire que je détiens du capital politique, je le confie à un homme politique pour lequel j'ai voté. En échange, il me doit tout ça. Ça serait très bien si c'était pas financé par la dette.
Oui, oui.
Le seul problème, c'est que ça a totalement dérapé du point de vue des grands équilibres.
Et d'un autre côté, il y a un mystère que vous allez m'aider à élucider. Vous parlez de cette augmentation des droits sociaux. Faites remonter le phénomène à 1974, donc la première vraie politique de gauche, c'est Giscard d'Estaing qui l'a entamé. Et d'un autre côté, on entend de plus en plus parler aujourd'hui de système néolibéral. Notre démocratie serait entrée dans l'ère néolibérale. Alors, j'ai un problème. Pourquoi parle-t-on tant de néolibéralisme? Quelle est la motivation de ce concept? Philippe Aguillon.
Je me fais taxer de néolibéral par une frange de l'extrême gauche. Moi, je me considère comme un bon social-démocrate.
Oui,
voilà. Je pense que Nicolas, on n'est pas très très loin. Eh bien, on est des socio-traîtres, quoi. Voilà. Avant, on disait socio-traîtres, mais maintenant, on dit néolibéral. D'abord, le mot libéral, c'est compliqué parce que dans le libéralisme aux États-Unis, quand on dit libéral aux États-Unis, ça veut dire qu'on est très progressiste dans le mot liberal. Mais néolibéral, il y a la connotation, tu crois dans la théorie du ruissellement. Tu crois, c'est-à-dire que j'enrichis les plus riches et puis automatiquement ça descend. Il y a l'idée que je crois dans le laisser-faire complet, le marché, etc. On peut pas dire que la France est un pays néolibéral parce que je veux dire, il n'est que d'aller aux États-Unis. Quand tu tombes malade aux États-Unis et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu dois vendre ta maison, tu n'as pas la protection sociale que tu as dans les pays européens et en particulier la France. Donc je crois que n'importe qui voyage à l'extérieur, va dans un pays comme les États-Unis ou l'Angleterre et retourne en France, c'est une absurdité de dire qu'on est des néolibéraux. La France est un pays d'État-providence. Tu as l'assurance chômage, tu as la santé, c'est gratuit, l'éducation, c'est gratuit, tu as des protections sociales comme tu... Et d'ailleurs, on voit bien, il y a eu un phénomène récent aux États-Unis d'augmentation de la mortalité des gens d'âge moyen non qualifiés. C'est ce qu'on appelle le « death of despair », la mort de désespoir que Angus Deaton, prix Nobel 2015, a très bien mis en évidence. Il n'y a rien de tel en France, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Au contraire, la mortalité de cette frange a baissé au cours des dernières années. Et tous les indicateurs, que ce soit les indicateurs d'inégalité globale, de mobilité sociale, de pauvreté, la France est un pays, par exemple, où les inégalités globales n'ont absolument pas augmenté depuis 30 ans. Donc peut-être je laisse Nicolas, parce que là on est...
Non, mais on est sur un point fondamental. L'histoire du secret de famille que je raconte là, la question du mensonge autour du néolibéralisme est fondamentale, évidemment. Hein. On est dans un mensonge depuis longtemps, et donc un régime de mensonge se défend toujours par un plaidoyer sur sa propre rectitude, tout le temps. Et il prend la forme de la dénonciation de l'autre. L'autre étant le néolibéral. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. La France était néolibérale en 1958, avec Jacques Rueff. Elle est devenue keynésienne, puis ultra-hyper-keynésienne, dans des proportions que Keynes aurait dénoncées. Quand on a des déficits de 5% du PIB par an, c'est bien qu'on est keynésien. Et on fait croire aux Français, pour continuer de leur faire croire au reste, à savoir que l'État-providence est naturellement équilibré, que c'est les autres qui sont mal gérés, etc., qu'on serait devenu néolibéral. Ce qui est une manière d'ailleurs de construire une machine intellectuelle frelatée, justifiant quantité, sans cesse, non financée, de nouveaux droits.
Oui. Alors vous dites d'ailleurs que les radicalités montent à proportion de la croissance de la protection, que nous vivons sous une bulle cognitive sur l'effondrement de l'État-providence alors qu'il est en pleine progression. Et vous ajoutez, plus les gouvernements ajoutent du social au social, plus le cœur suppliant dénonce l'oligarchie néolibérale. Vous citez Édouard Philippe, citant lui-même Bob Dylan dans son discours de politique générale, pour voir combien de temps un homme peut-il tourner la tête en prétendant qu'il ne voit pas. Oui. Donc, il appelait à la rescousse Bob Dylan, mais cette bulle cognitive, ma question est de savoir qui l'a installée. Qui pense ainsi et pourquoi cette pensée a-t-elle un tel succès, même dans les cercles politiques ?
Oui, non, je pense qu'il y a une responsabilité énorme de l'école de sociologie française, dans laquelle est insérée l'économie, hein, puisque dans les universités, l'économie est un département plus général des sciences humaines et de la sociologie. Et la sociologie a été totalement embarquée par le monde de Pierre Bourdieu, qui est ce monde-là, qui est un monde qui va désigner un ennemi, en réalité, hein, qui est l'ennemi néolibéral, l'élite déconnectée, etc., pour justifier un passage à l'extrême dans l'obtention de droits supplémentaires pour l'individu démocratique. Ça serait très bien, encore une fois, si on pouvait se les payer, c'est-à-dire si l'économie galopait au même rythme que l'État-providence. Mais l'État-providence croît de 4% par an et l'économie de 1%. Voilà. Et donc, la bulle cognitive, c'est effectivement tout un clergé qui sont intellectuellement cette école de sociologie-là, professionnellement, tous ceux qui sont les professionnels de l'État-providence aussi, hein, tous les accompagnateurs de la politique du chômage, tous les associatifs. Vous savez, 53% des Français adultes, donc des électeurs, reçoivent chaque mois leur chèque de revenu de l'État. Donc c'est cette partie-là de la France qui a besoin de croire dans cette fadaise charlatanesque. Elle est très contente de pouvoir continuer d'y croire, jusqu'au jour où on lui dit que c'est faux.
Je voulais dire, je crois qu'il y a, en France, il y a deux courants. On est un peu des sociodémocrates de production, c'est-à-dire ce qu'ont devenu les Rhénans, les Scandinaves.
Exactement.
C'est-à-dire de dire, ce n'est pas un jeu à somme nulle. On doit produire pour distribuer. Voilà. Donc il y a l'idée de dire, pour pouvoir distribuer, il faut produire. Donc il va falloir innover, devenir plus productif. L'agenda de Mario Draghi, dont on parlera peut-être. Il faut que la France, l'Europe, devienne plus productive, plus innovante, pour que le gâteau soit plus grand et qu'il y ait davantage à distribuer. Et il y a ceux qui raisonnent comme un jeu à somme nulle en disant « la croissance, on oublie, et donc tout ce que je ne prends pas, c'est l'autre qui le prend. Et forcément, ce que je donne à l'autre, ça met au thé, quoi. » Et il y a une partie de la gauche qui raisonne comme un jeu à somme nulle et qui oublie la production et qui oublie le fait qu'il faut produire pour redistribuer. Et tu as la gauche de production, ça va jusqu'aux gaullistes sociaux, etc., qui disent non, on peut tout à fait être innovant et inclusif. tu as un bon système éducatif, tu as une bonne flexi-sécurité comme au Danemark, eh bien, ce sont des pays où tu as de la mobilité sociale, la Suède, le Danemark, tu as de la mobilité sociale, mais tu as de l'innovation, et tu as un environnement fiscal et réglementaire qui favorise l'entreprise, l'innovation, et en même temps la mobilité sociale. Et en fait, l'innovation est un moteur de mobilité sociale. On permet aux nouveaux talents de se développer, c'est ça toute mon approche schumpeterienne, on permet aux nouveaux talents de se développer, de créer des entreprises, de les développer, et on permet sans arrêt. Et on fait en sorte que quand ils grandissent, ils n'empêchent pas de nouveaux talents d'arriver. Ça, c'est une vision très progressiste, parce que c'est une vision, on dit, croissance, et donc là, le gâteau va augmenter, on va améliorer notre niveau de vie, on va pouvoir vous soigner mieux, vous pourrez vivre plus longtemps, en meilleure santé, etc. Et en même temps, la mobilité sociale est complètement au cœur de notre agenda. Donc c'est une manière d'être progressiste qui est très différente de la manière de dire pas de croissance, pas d'innovation, et c'est juste un gâteau, et on vous donne, vous aurez moins pour qu'on ait davantage. Et je crois que c'est ça la ligne de partage. Et tous ceux qui pensent en termes de socialisme de production, ceux qui voient l'économie comme un jeu à somme nulle, nous traitent de néolibéraux. Et nous ne sommes pas du tout pour le ruissellement. On pense qu'il faut un État qui finance un bon système éducatif, un bon système de santé, une bonne politique industrielle intelligente, une bonne flexi-sécurité. Donc c'est pas là, il faut un État qui se pose présent. Mais en même temps, on croit beaucoup dans le fait qu'il faut à la fois innover et être inclusif. Et c'est ça vraiment qui nous sépare de cette gauche, à mon avis, qui est une gauche rétrograde.
La gauche redistributive, cela étant, n'a pas dit son dernier mot. Vous êtes pour une gauche productiviste, en quelque sorte.
Mais qui est également inclusive.
Et inclusive, oui. Bien sûr. Alors, certains vont jusqu'à dire, après tout, la dette, c'est pas un problème, on n'a qu'à l'annuler. Et d'autres proposent une nouvelle taxe sur les très riches. C'est la taxe Zucman. Alors, que pensez-vous de ce type de proposition, Nicolas Dufourcq?
Oui, d'abord, je pense qu'il est important de bien voir que la croissance vertigineuse de l'État-providence n'est pas le fait de la gauche seulement. C'est le fait de tout le monde.
Absolument.
Typiquement, si vous faites l'histoire de la carte vitale, vous avez des pionniers, des pères fondateurs qui sont Alain Juppé, Philippe d'Ouste-Blazy. Donc, sur la quasi-totalité du champ du social, vous avez unanimité entre la droite et la gauche. Sauf un, la retraite. Toutes les réformes des retraites ont été faites par la droite, sauf une, la réforme de Marisol Touraine, 2013. Donc, 1982, vous avez vu le temps qu'il a fallu pour que la gauche fasse une réforme des retraites. Bon. Mais sur tout le reste, droite et gauche sont d'accord. Parce qu'en réalité, notre classe politique, c'est la classe politique de l'État-providence. C'est la classe politique que le peuple souverain a souhaitée. Et pour obtenir de plus en plus de droits, il faut la faire tourner de plus en plus vite, puisqu'à chaque élection, pour être élu, il faut en proposer de nouveaux. Voilà. Donc, ça nous donne ce que nous avons aujourd'hui, avec la nécessité, pour juste stabiliser la dette, hein, de trouver 120 milliards d'euros d'économies par an, c'est-à-dire 10% de ce que nous dépensons. Est-ce qu'une taxe Zucman pourrait résoudre le problème? Doublement non. D'abord, elle rapporte peu à l'échelle du problème, mais surtout psychologiquement et ontologiquement, j'ai envie de dire, du point de vue du rapport au droit de propriété, qui est quand même sacré, la propriété, ça n'est pas le vol. Et ce que dit Zucman, c'est la propriété, c'est le vol. Donc les entrepreneurs sont... Alors ceux qui sont fragiles dans des territoires difficiles sont juste dans un immense chagrin, et ceux qui sont puissants disent « on s'en va ». Donc il ne faut pas toucher à la propriété de ceux qui sont les seuls à pouvoir nous sauver en engendrant une économie productive, comme l'a avec beaucoup d'éloquence dit à l'instant Philippe Aguillon. Quand on a un État-providence dont on sait qu'il galope, il faut faire galoper l'économie. Au moins au rythme auquel il galope. La République, elle est dans sa constitution économique et sociale. On a un conseil économique et social. Ce sont deux chevaux qui doivent courir au même rythme pour que le carrosse ne tombe pas. Or, le cheval de l'État-providence court devant parce qu'il est dopé à la poudre blanche de la dette.
Oui, Philippe.
Donc moi, je vais, de toute façon, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Je veux dire que sur la taxe Zucman, c'est une chose très très simple, c'est-à-dire que ça taxe la valorisation d'une entreprise. Donc vous avez, par exemple... Moi, je prends toujours l'exemple d'Arthur Munch, mais ça peut être Yann Lequin qui quitte Meta pour venir établir une nouvelle... Il veut faire une nouvelle révolution de l'intelligence artificielle au sein de la révolution de l'intelligence artificielle. Tu crées une entreprise. Elle est valorisée à, je sais pas, 10 milliards ou 12 milliards, d'accord? Mais pour le moment, elle rapporte rien. Au début, une entreprise même fait des pertes. Eh bien, la taxe Zucman t'oblige à emprunter pour payer sur les 12 milliards. Mais s'il y a éclatement de la bulle IA demain, les 12 milliards deviennent 2 milliards ou 3 milliards. Et tu auras dû emprunter pour payer des impôts sur un revenu que tu n'as pas généré. Alors que tes concurrents dans d'autres pays, eux, ils empruntent pour développer leur entreprise. Donc, si tu veux, c'est très simple. Tu mets la taxe Zuckerman en France, l'IA par ailleurs. L'IA, il n'y a plus d'IA en France. Déjà, on a manqué en grande partie la révolution des technologies de l'information et on va alors complètement manquer la révolution de l'intelligence artificielle qui est la source de croissance. Vous voyez, en ce moment, chaque demi-point de croissance de plus, c'est plein de choses qu'on peut s'offrir. Un meilleur système de santé, une meilleure éducation. On voit à quel point ça nous manque un demi-point de croissance. Ben, une des sources de croissance, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Vous mettez une taxe Zuckerman, eh bien, l'intelligence artificielle part, quitte la France et part ailleurs. Donc, ouais. On se prive. Vous voyez, c'est que je parlais de la taille du gâteau. Ben, on rétrécit considérablement la taille du gâteau. Mais, et donc, qui est redistribué à tout le monde.
Mais l'intelligence artificielle, c'est un autre sujet, mais quand même, est-ce qu'elle va pas mettre un nombre considérable de travailleurs au chômage?
Alors là, c'est vraiment un autre sujet, c'est sur l'emploi, parce qu'il y a deux effets sur l'intelligence artificielle. Il y a l'effet croissance, oui. Et l'intelligence artificielle va générer beaucoup de croissance, parce qu'elle automatise des tâches, pas des emplois, dans la production des biens et services et dans la production des idées. C'est plus facile d'avoir des idées avec l'intelligence artificielle. Les entreprises qui introduisent l'intelligence artificielle voient leur productivité dopée, donc la croissance va être dopée. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle, comme toute autre révolution technologique, il y aura des emplois détruits, mais il y a beaucoup d'emplois créés. Pourquoi? Parce que les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle deviennent plus productives, plus compétitives, la demande mondiale pour leurs produits augmente, et donc l'emploi augmente. Et l'autre raison, c'est que ça va générer beaucoup de nouvelles idées, donc de nouvelles activités. Il y aura des destructions d'emplois, mais il y aura aussi de la création d'emplois. Pour ça que je suis un grand fanatique de la flexi-sécurité, de la flexi, c'est donc la destruction créatrice, évidemment, mais je suis un grand fanatique de la flexi-sécurité danoise, parce qu'effectivement, il va falloir gérer les personnes qui perdent un emploi et être sûr qu'elles sont en formation le temps de trouver un nouvel emploi. Si on se dote d'un bon système de flexi-sécurité, ce qui veut dire un bon système éducatif, eh bien, on peut tirer le meilleur de cette révolution technologique.
Mais que pensez-vous l'un et l'autre de cette proposition qu'on entend? Après tout, cette dette, elle pèse, mais pourquoi ne pas l'annuler, Nicolas Dufour, vous éclatez de rire, mais c'est une question tout à fait naïve.
Oui, non, mais il y a même des livres qui ont été écrits par la France Insoumise sur le sujet.
Bah, par exemple.
Absolument. Bon, ça fait partie naturellement des nombreuses chimères qui permettent de persévérer dans l'erreur. Et dans les chimères, vous avez aussi l'idée que on va trouver 1,5% de croissance de plus de façon relativement aisée par une nouvelle couche keynésienne. Vous avez une chimère qui est on va trouver l'argent chez les riches. Vous avez une chimère qui est on va trouver l'argent chez les immigrés arabes. Et vous avez donc une chimère qui est, de toute façon, cette dette, on sait très bien qu'on la remboursera jamais, elle n'existe pas, on va l'annuler. Bon, la dernière fois que la France a annulé sa dette, c'est Dominique Ramel, ministre du Directoire, en 1797. Quand on annule une dette, c'est en général qu'il y a eu une révolution juste avant. Et ça se paye très très longtemps. Donc aujourd'hui, la qualité de la dette française, précisément parce qu'elle n'a jamais fait défaut depuis si longtemps, est reconnue comme exceptionnelle. Et ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que du fait que nous ayons un budget, les marchés ont été rassurés et nous accordent à nouveau des taux d'intérêt qui sont élevés, mais ils continuent de monter, mais qui auraient sans doute explosé si nous n'avions pas eu de budget. Bon, et tout ça est un ensemble. Donc là, cette dette n'est juste absolument pas annulable. Il faut se mettre dans la tête, ça n'existe pas, ce scénario.
Pourquoi c'est pas annulable?
Mais parce que tout s'effondre. C'est-à-dire que l'Argentine a annulé sa dette une fois, 40 ans plus tard, elle a toujours du mal à aller sur les marchés financiers.
Ah oui, c'est ça.
Voilà. Donc vous payez un prix de paupérisation et, en fait, disons-le, d'effondrement de l'État-providence, qui est précisément ce contre quoi nous nous battons, qui est un prix démentiel. Donc il ne faut pas jouer avec ce feu-là.
Je voulais rebondir sur ce que disait Nicolas. Vous avez tout un débat sur maintenant, est-ce qu'il y a vraiment déclin technologique ou pas de l'Europe et de la France par rapport aux États-Unis et à la Chine? Et je dis, nous, on dit qu'il y a déclin. L'innovation de rupture se fait beaucoup plus en Chine et aux États-Unis que chez nous. Pourquoi c'est important de relever le défi de l'innovation et de la productivité? Parce que c'est le seul moyen de soutenir notre modèle social. Nous ne pourrons pas soutenir notre modèle social si nous ne relevons pas le défi du déclin technologique. On a les talents, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et donc, si on s'engage pas résolument dans cette politique d'innovation et de réindustrialisation, nous ne pourrons pas soutenir notre modèle social, nous ne pourrons pas financer notre modèle social à long terme.
Oui, d'ailleurs c'est pour ça, Nicolas Dufourcq, que vous parlez de la nécessité d'une écologie de l'État-providence. Il faut le sauver en faisant un certain nombre de sacrifices, en n'ajoutant pas sans cesse des droits aux droits. Mais là, je pose une question sur l'état de l'opinion française. Raymond Aron, en 1932, avait fait une fraise émolue de l'école normale. Il avait fait un séjour d'un an en Allemagne, au ministère des Affaires étrangères, devant un sous-secrétaire d'État. Il avait une très brillante conférence sur le danger qui se profilait. Et le sous-secrétaire lui a dit, c'est très bien. Le ministre, quand je vais lui en parler, va être très intéressé. Mais dites-moi, que feriez-vous à sa place? Et depuis, Raymond Aron a toujours pensé à cette question. Il n'a pas écrit un article, il n'a pas écrit un livre, sans se dire que feriez-vous à sa place. Et donc là, vous avez fait l'éloge de Sébastien Lecornu à propos notamment de la réforme des retraites.
Du budget.
Pour les régimes spéciaux. Oui. Étant donné l'état de l'opinion, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez vous-même en charge, si vous aviez une responsabilité politique? Notamment, vous dites par exemple, Nicolas Dufour, dans votre livre, la dissolution a achevé d'ouvrir sur les sujets de protection sociale un flot de démagogie propre à stupéfier l'homme de la rue dans toutes les capitales européennes. Donc il y a vraiment une singularité française, mais il faut compter avec ça. L'opinion n'empêche-t-elle pas les réformes qui vous sembleraient nécessaires pour sauver l'État-providence, Nicolas Dufour?
Jusqu'au jour où elle change parce qu'on l'a aidé à changer. Je pense qu'il faut peser sur l'opinion. Et il faut reconnaître que j'ai un immense respect pour eux, les gens qui sont patriotes dévoués, sacrificiels, les hommes et les femmes politiques, aujourd'hui, ont une portée de parole, notamment au travers du système médiatique, qui est devenue relativement faible. En tout cas, les Français font très clairement savoir qu'ils n'ont pas très envie d'entendre leurs paroles. Et donc, il faut passer par d'autres canaux pour toucher le cœur des gens. Ça s'appelle peser sur l'opinion. Et bon, il se trouve que c'est un peu pour ça que je fais ce livre. Et oui, que j'avais fait mon livre sur la désindustrialisation. Et je pense que si nous étions nombreux, très nombreux à faire ça, de manière un peu comme des croisés, hein, d'une certaine forme de vérité, quoi, de révélation, beaucoup, beaucoup de gens sont prêts à entendre ce qu'on dit, vous savez. Ce livre-là, normalement, aurait dû me valoir d'hégémonie. Et ça n'est pas réellement le cas. Ça n'est pas réellement... Parce que je pense que le peuple français, la poutre travaille, si vous voulez. Hein. Le peuple français comprend qu'en fait, c'est vrai. Et qu'on lui avait pas vraiment dit ça comme ça. Et qu'en plus, on le lui dit pas méchamment. On dit même simplement, gentiment, quoi, que c'est notre système et que l'État-providence est un miracle et d'une immense beauté. Construction de nos anciens, qu'on a le devoir de transmettre à nos enfants inabîmé. Et donc, il faut faire passer la possibilité d'un retour à une éthique de l'effort, sans être père fouettard, sans être dominant, en parlant un langage qui est un langage simplement compréhensible, avec des faits qui sont des faits maintenant absolument incontestables. Donc moi, je pense qu'on peut faire bouger l'opinion. Que feriez-vous? Faire bouger l'opinion. Voilà. L'année 2026 est fondamentale. C'est l'année de préparation du bouillon de culture de la Saturnale électorale de 2027. Hein. C'est en 2026 qu'il faut peser sur l'opinion au maximum. Oui.
Moi, je pense qu'on est à un moment gaullien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une voix, il faut qu'il y ait qui dise, voilà, la France a une vocation. La France, c'est un grand pays. Tout le monde se tourne vers la France. On ne peut pas avoir une Mélanie en France. On peut pas. On est le pilier de l'Europe. L'Europe, c'est des valeurs. C'est la liberté, la démocratie. C'est un modèle social. C'est une vision sur l'environnement. Et l'Europe est porteur de ces valeurs, et au sein de l'Europe, la France est un pilier de cette Europe-là. Et c'est cette Europe qu'il faut maintenant sauver, qu'il faut rétablir. Et il faut que la République revienne. L'éducation, c'est vrai, ne remplit plus sa promesse républicaine.
Ça, c'est
la
clair.
Santé ne remplit plus sa promesse républicaine. Beaucoup de gens vont vers les populistes parce qu'ils se sentent abandonnés et méprisés. Il faut parler à ces gens-là. Et il faut dire, on va rétablir la République. Mais c'est un gaullisme modernisé. Et avec une France qui va se renforcer industriellement, innovation, la République qui revient, pour être pilier de cette Europe qui va se relever, parce que pourquoi l'Europe doit se relever? Parce qu'elle est porteuse, unique maintenant. C'est plus aux États-Unis la démocratie, la liberté. C'est en Europe. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi il faut faire de l'effort. Il faut faire de l'effort parce que ça va rendre cette France capable de jouer le rôle historique qui est le sien, d'être le pilier d'une Europe qui incarne des valeurs que personne d'autre dans le monde n'incarne. Et je crois que quelqu'un qui peut tenir ce discours-là, à ce moment-là, l'effort, les gens sont prêts. Après la guerre, Maurice Thorez disait, on retrousse les manches et on se met au travail.
Il faut quelqu'un qui puisse mobiliser tout l'arc depuis les communistes jusqu'au LR et dire voilà ce que nous allons faire et voilà pourquoi ça vaut la peine de faire de l'effort. Et je pense qu'on est à un moment comme celui-là. Et moi, j'ai espoir parce qu'on a les talents qu'il faut. Nous sommes un grand pays. Il faut éviter le pire dans 15 mois. On ne peut pas se permettre d'avoir... Il y a des gens qui disent bah, « il y a bien Mélanie en Italie ». On n'est pas l'Italie. On est le pilier de l'Europe qui porte les valeurs que je viens de mentionner. Et on doit être les plus grands porteurs de ces valeurs, avec l'Angleterre d'ailleurs, qui est prête à revenir vers nous, l'Allemagne qui est prête à investir, le Canada qui est prêt à jouer avec nous, avec Marc Carney, qui a été formidable à Davos. On a des atouts formidables. Et donc là, on va encourager l'effort, parce que tout le monde va comprendre pourquoi il faut mettre l'effort. Et la cause est tellement noble... Et on peut vraiment arriver à nos fins. Et je crois que c'est ce langage qu'il faut tenir, et c'est comme ça qu'on va mobiliser en 26 et en 27.
Il faudrait inventer un mot qui dise à la fois effort et élan vital. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se couper un doigt de pied. Il s'agit de redonner envie à la totalité des adultes français d'être au maximum de leur élan vital dans la vie, hein, en accomplissement personnel, ce qui est la condition de survie de l'État-providence. Et ça a été tout à fait établi par toute l'école de philosophie qui a préparé la naissance de l'État-providence dans les années 20 et dans les années 30, ou dans les années 10, avec Léon Bourgeois. Léon Bourgeois disait très très bien que tout ceci n'est possible que si le jeune Français, au moment de sa naissance, comprend qu'il doit au pays la totalité de son énergie jusqu'au bout pour produire, alors en langage économique on appellera ça de la valeur, hein. Et moi j'ai envie de dire pour produire tout simplement sa liberté active, qui n'est pas une liberté de la société des loisirs, qui est une liberté productive. C'est ça qu'il faut rétablir, ce que je suis en train de vous décrire, hein. Vous savez, c'est pas compliqué, c'est le projet de la BPI. C'est notre métier de tous les jours, d'aller voir des Français en leur disant « Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas vous ?»
Mais beaucoup de gens se sentent exclus. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sont sentis méprisés. C'est pour ça que j'ai un énorme respect pour les électeurs du Rassemblement National des LFI. Les électeurs, hein, parce que c'est des gens qui se sont sentis méprisés, ignorés. Et on est passé par-dessus les corps intermédiaires d'une manière, à mon avis, qu'on n'aurait pas dû faire. Il faut savoir reconnaître. Et il faut apprendre de nos erreurs. Parce que nous ne pourrons réussir que si ces gens-là se sentent inclus. S'ils sentent qu'ils sont partie prenante de cette merveilleuse entreprise.
D'accord. Mais il faut entrer dans l'épaisseur des choses. Donc, vous êtes en responsabilité. Vous constatez un empilement des droits sociaux et qui fabrique la dette. C'est pour ça que votre livre est intitulé « La dette sociale de la France ». Mais alors, sur quel droit faut-il revenir ? Parce que les Français se sentent de plus en plus comme des ayants droit. Ils en demandent toujours davantage. On peut dire, bon ben, trop c'est trop, on peut arrêter. Mais y a-t-il des droits sur lesquels il faut revenir ? Et comment convaincre les Français de faire un tel sacrifice ? Nicolas Dufourcq.
Les deux premiers postes de la protection sociale sont les retraites et la maladie. Les retraites, c'est 410 milliards, la maladie, c'est 320, et ça monte très très vite. On verra d'ailleurs, à mon avis, un jour où la maladie sera au-dessus des retraites. Donc c'est la vieillesse. Donc il faut déjà qu'on se mette bien d'accord dans le débat public sur les conséquences du vieillissement dramatique de la société française. Ça, les gens ont été longtemps dans le déni, avec une autre de nos chimères qui est « la France est féconde, la natalité ne tombera jamais ». Elle tombe, et elle va continuer de tomber, il n'y a aucune raison que ça s'arrête maintenant. Le toboggan est devant nous. L'espérance de vie va continuer de monter. La qualité du soin est là. Bon, et donc, comment est-ce qu'on refonde le contrat social dans une société dans laquelle vous avez aujourd'hui 18 et demain 20, puis 21 millions de retraités ? Donc, que faut-il couper ? D'abord les retraites. D'abord les retraites. Retraite à 65 ans, puis 67 ans, désindexation pendant plusieurs années. La générosité des retraites françaises est presque absurde maintenant. Il n'y a aucun pays au monde qui n'accorde des retraites aussi généreuses pour lesquelles les gens vous disent « j'ai cotisé ». Mais c'est pas vrai. Le service qu'ils ont acheté en payant leur cotisation chaque mois n'est pas ce service-là. Ils ont acheté 15 ans de retraite et ils obtiennent 30. Donc la différence entre les deux, c'est la dette. Donc il faut relever l'âge de la retraite, désindexer les retraites, supprimer un certain nombre d'avantages, comme par exemple l'abattement de 10% de l'impôt sur le revenu que Raymond Barre avait créé en 1977 simplement pour gagner les élections législatives de 78, qui n'a aucun sens.
Un abattement pour qui ?
Les retraités.
Ah, pas les retraités.
Les frais, de déplacement, c'est ça.
Abattement de retraite, 4 milliards d'euros par an. Ouais, 4 mais, rendez-vous compte, 4 ouais. milliards d'euros par an.
Hein. Mais en matière de santé, faut-il faire des sacrifices aussi?
Et en matière de santé, il ne faudra jamais dégrader la santé des Français.
Ah, ouais, quand même, merci.
Jamais, jamais, jamais. Mais la vision à laquelle on s'est habitué, qui est il est légitime d'obtenir un remboursement à 100% de tout, est une vision non finançable. Il faut revenir à du reste à charge, comme partout, comme d'accord. en Allemagne. Comme dans tous les pays du Nord. Le reste à charge français.
Les médicaments chez nous, ce qui se passe avec les
médicaments. Le reste à charge français est le plus faible du monde, 5%, et il baisse tous les ans, puisque chaque année, vous avez un demi-million de Français qui rentrent dans le régime des maladies chroniques, remboursés à 100% sur tout. Ça n'est pas tenable. Rétablir du reste à charge, ensuite, là, pour le coup, on sort de l'écologie de l'État-providence, et on ouvre un débat politique qui est-ce qu'il ne faudra pas que ça soit sous condition de ressources?
Et le RSA, faut-il toucher aussi au RSA?
Le RSA, c'est 12 milliards d'euros. C'est rien à l'échelle du problème. Le seul problème du RSA, c'est la question de l'éthique du travail. C'est-à-dire que vous avez deux tiers des bénéficiaires du RSA qui sont en maladie chronique. Et vous avez, effectivement, pour le coup, un ruissellement dans la société française de l'idée qu'on puisse ne jamais travailler. Ça, c'est philosophiquement problématique, et ça l'était dans les débats sur la création du RMI. On ne parlait que de ça. Hein. Michel Rocard avait bien dit « i ». Et ensuite, dans la
création... Insertion.
Insertion. Donc, je pense que le RSA, il ne faut pas y toucher tel qu'il est, et ne rien faire d'autre que ce qui a commencé au début de l'année 2025, c'est-à-dire d'intégrer les bénéficiaires du RSA à l'UNEDIC pour les ramener vers le marché du travail. Mais il ne faut surtout pas, dans notre débat, se focaliser sur la question du RSA. Franchement, c'est un piège intellectuel. Le sujet, c'est les 400 milliards de retraites et les 320 milliards de dépenses de santé, 730 milliards d'euros au total, sur un total de prestations sociales de 900.
D'accord. Quel sacrifice faut-il faire? Vous dirigez la France, Philippe Aguillon.
Les sacrifices sont acceptés s'ils sont partagés. Par exemple, quand on veut toucher au crédit impôt recherche, les patrons hurlent. Moi, j'ai un ministre, je ne vous dirai pas lequel, qui me dit « j'ai travaillé dans une grande entreprise, je peux vous dire que le crédit impôt recherche servait à tout sauf à l'innovation ». Donc il y a des gens qui utilisent le crédit impôt recherche intelligemment, mais d'autres, non. Il est mal ciblé. Donc je pense que, vous savez, je crois beaucoup, et ça, je pense que ça fait partie. C'est-à-dire qu'il va falloir demander de l'effort à tout le monde. Mais on ne peut pas demander de l'effort aux retraités si en même temps, on ne dit pas, eh bien, il y a les holdings patrimoniales, il y a des gens qui utilisent des holdings patrimoniales pour s'acheter des chalets ou des avions. Il faut mettre à plat. Peut-être qu'il y a des bonnes utilisations des holdings patrimoniales, peut-être des mauvaises. Le crédit impôt recherche, il est utilisé comme... Il y avait la niche du Treil, il y a des gens qui ont abusé de la niche du Treil.
C'est quoi la niche du Treil?
Ça te permet de transmettre des entreprises plus facilement. Donc ça se justifie parce que tu veux préserver l'emploi. Mais il y a eu certains qui ont abusé de l'utilisation de la niche du Treil. Ils ont mis des biens non professionnels dans la niche du Treil. Voilà, je pense qu'il faut tout mettre à plat. Il y a de la fraude sociale, mais il y a de la fraude aussi, il y a de l'optimisation fiscale excessive. Je pense que c'est important. Les sacrifices sont toujours mieux acceptés quand ils sont partagés. Et je pense qu'on ne peut pas d'un côté dire « je ne touche absolument pas au crédit impôt recherche, je ne touche absolument pas au limite patrimonial, mais alors par contre, je vais demander ». Je pense que c'est politiquement infaisable. Je pense qu'une bonne démarche gaullienne ou social-démocrate, gaullienne social-démocrate, dirait « je vais tout mettre à plat et je vais regarder ça oui, ça non ». Mais je crois qu'il faut avoir une démarche qui dise « tout doit être mettre à plat parce qu'il y a des abus un peu partout ». Et je crois que c'est très important, parce que sinon, politiquement, ça ne fonctionnera pas.
Oui, mais alors, certains sont presque plus inquiets que vous aujourd'hui, parce que avec cette augmentation des droits, il y a des secteurs qu'on n'arrive plus vraiment à financer. Les commissariats sont dans un état déplorable, je crois que vous le dites, Nicolas Dufourcq. Et Nicolas Bavret a dit que la France était aujourd'hui en voie de tiers-mondisation. Va-t-il trop loin dans son diagnostic, Nicolas Dufourcq?
Oui, il y a un certain nombre d'éléments où je donne raison à Nicolas. Bah ouais, en effet, hein, qui me rappelle mon enfance en Afrique, ça va vous faire marrer, mais où tous les travaux que j'ai faits dans les pays africains depuis, c'est que dans ces économies-là, dès qu'il y a un problème, par exemple, on se remet à taper sur ce qu'on appelle là-bas le secteur formel, hein, c'est-à-dire l'économie. Hein. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé avec cette version de 2025 du budget, par facilité. Ça, c'est typiquement un comportement qui n'est pas un comportement moderne. Hein. Les services publics dont vous parlez se sont paupérisés. Alors ça voilà. Fait partie des autres questions, voyez-vous, où les Français posent la question de savoir comment c'est arrivé. Comment est arrivée la désindustrialisation? Pourquoi? Expliquez-moi. Comment est arrivée la paupérisation de l'éducation nationale et des commissariats de la justice? Expliquez-moi. Et le narratif, en fait, maintenant, on le connaît, c'est que les mêmes Français ont demandé à ce que la totalité des marges de manœuvre de l'État soit mise dans les retraites et dans la maladie. Voilà. Donc, si on veut cesser de victimiser le budget de l'État chaque année, vous savez, tous ces grands moulinets, là, on nous explique que l'État va faire sa part, l'État va faire des économies, mais l'État est déjà à jeun, hein, l'État est nu comme un ver. Il faut réformer les retraites et la maladie. C'est là que sont les ressources qui permettront de redonner de l'air à l'éducation nationale, à la sécurité, aux gendarmes qui sont contre des aides mafias à Marseille, et aux juges. Et aux chercheurs.
Et aux chercheurs.
Moi, enfin, je crois qu'également.
Alors, pour finir, Philippe Aguillon.
Je crois qu'il va falloir, effectivement, une réforme des retraites. Bon, moi, je la voudrais à point, mais ou peut-être d'autrement. Et il faut un taux d'emploi plus grand. Il va falloir, les systèmes de santé, on rembourse tous les médicaments sans limite. Il y aura certainement des choses à revoir. Mais je crois aussi, donc, augmentation du taux d'emploi et augmentation de la productivité. Ça sera quand même à moyen et long terme les moyens de pouvoir nous permettre de nous offrir un bon système social. Donc, je crois que il y a les leviers que mentionne Nicolas, mais à plus long terme, augmentation du taux d'emploi et augmentation du taux de productivité. Je pense que ça sera des... Je pense que c'est comme ça que nous arriverons à soutenir. Je ne crois pas qu'on est en voie de tiers-mondialisation. Je crois que c'est un peu... Bon, il aime bien Nicolas Bavret, que je respecte beaucoup, être un peu catastrophiste, quoi. Mais il faut qu'on se réveille et qu'on se relève. Voilà.
Très bien. C'est une belle conclusion. Merci à tous les deux. J'espère que les responsables politiques vous auront écouté. Et je leur rappelle, à eux et aux auditeurs, le titre de votre livre, Nicolas Dufourcq, « La dette sociale de la France, 1974-2024 », chez Odile Jacob. Vous avez aussi publié un livre coécrit avec Gilbert Sept et Élie Cohen, « Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance », Philippe Aguillon. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui, Hélène Langlois. Thank you.